Vous écoutez Europe 1, il est 22h passé de 40 secondes. Largement l'heure du journal, Isabelle Millet.
Le Royaume-Uni a tendu à la France libre sa première arme, un micro de la BBC. Ce soir-là, De Gaulle devint la voix et le souffle de la France libre.
Emmanuel Macron dans les pas du général de Gaulle à Londres, 80 ans après l'appel du 18 juin. L'audition du professeur Delfraissy, le président du conseil scientifique, devant la commission d'enquête de l'Assemblée aujourd'hui, il raconte les coulisses des décisions qui ont été prises et n'exclut pas que le virus revienne.
Le risque d'une deuxième vague fin octobre est un risque qui doit être considéré.
La crise du Covid qui marque le grand retour du plastique, figurez-vous. De plus en plus d'emballages individuels, le jetable revient en force. Un coup de filet dans la communauté tchétchène aujourd'hui après les violences de Dijon, 6 personnes interpellées. Donald Trump est inapte à gouverner, les mots sont forts, surtout quand ils proviennent de son ancien conseiller. Et la réouverture des salles de cinéma, c'est pour lundi prochain, les exploitants doivent revoir toute leur organisation.
Vous avez 150 places dans cette salle et on pourra mettre que 75 personnes. Ça ajoute une autre contrainte. À savoir qu'il y aura toujours au moins l'espace d'un siège entre des personnes qui ne se connaissent pas.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,75% à 4 958 points. Claire Lemaître de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Un peu plus de soleil demain, en tout cas au sud, car au nord de la Loire, il faudra encore patienter un peu. Le ciel sera partagé entre soleil et averse. Partout, les températures vont commencer à grimper progressivement et sachez-le, la semaine prochaine s'annonce estivale. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, votre rendez-vous avec l'Interview Éco. Carole Ferry reçoit ce soir Nicolas Crémer, le directeur général du parc Astérix, qui rouvre en douceur, encore peu de visiteurs, mais des réservations qui repartent pour cet été.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron dans les pas du général de Gaulle pour ce 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. D'abord au Mont-Valérien ce matin, près de Paris. Et puis cet après-midi en Grande-Bretagne, la même où de Gaulle avait installé le QG de la France libre, Adrien Beck.
Oui, au 4 Carlton Gardens, à quelques mètres, s'élève désormais une statue du général. Le prince Charles, suivi d'Emmanuel Macron, y ont déposé chacun une couronne de fleurs avant deux discours assez courts, assez sobres, où le chef de l'État a retracé le parcours londonien de De Gaulle et son arrivée le 17 juin 40.
Alors l'Angleterre décidait d'abriter la France. Le 18 juin 1940, le Royaume-Uni a tendu à la France libre sa première arme. Un micro de la BBC.
80 ans après, comme remerciement, la France remet donc la Légion d'honneur à la ville de Londres, reçue par le prince Charles, qui s'est exprimé en anglais et en français.
C'est avec une immense fierté et un grand plaisir que j'accepte de recevoir la Légion d'honneur au nom de la ville de Londres pour la liberté. Aux côtés de la France.
Voilà, Emmanuel Macron a donc achevé cette visite par un passage au 10 Downing Street chez Boris Johnson qui lui a offert une reproduction miniature de la Land Rover de Winston Churchill. Churchill, De Gaulle, deux leaders dont l'amitié était parfois un peu orageuse, à l'image de l'amitié franco-britannique célébrée aujourd'hui.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. La suite des auditions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du Covid en France. Ce sont les experts du conseil scientifique qui ont été à leur tour entendus aujourd'hui. Conseil dont l'avis, vous le savez, a été capital, notamment pour le déclenchement du confinement et du déconfinement. Alors tous se sont défendus et notamment le premier d'entre eux, le professeur Jean-François Delfraissy. Ève Roger, ce qu'ils ont dit en gros, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix.
Non, ils l'ont dit et répété, les hôpitaux étaient en alerte avec des patients de plus en plus nombreux en réanimation. C'était la seule façon d'éviter la catastrophe comme en Italie à l'époque. Malgré tout, le jour où Jean-François Delfraissy a dû dire aux politiques « il faut confiner » a été pour lui un moment très difficile à passer.
Comment on aide finalement à prendre une décision aussi difficile que le confinement généralisé? On a été vraiment dans quelque chose qui nous a nous-mêmes sidérés. Je l'ai dit, je vous le répète devant vous, je n'ai pas dormi pendant 3-4 nuits. Hein. À la suite de ça.
Preuve que c'était la bonne direction, le monde entier, à l'exception de la Suède, s'est confiné, mais le président du conseil scientifique a aussi évoqué l'avenir et l'hypothèse de la fameuse deuxième vague.
L'ensemble du conseil scientifique considère que le risque d'une deuxième vague, d'une vraie deuxième vague, pas d'une réapparition, venant de l'hémisphère sud et revenant sur le nord, et en particulier en Europe, fin octobre ou en novembre ou en décembre, est un risque qui doit être
considéré.
Alors, pas question pour lui d'un reconfinement généralisé, a-t-il ajouté. Ce n'est ni possible, ni souhaitable, mais il faudra protéger les plus âgés, les plus à risque, et laisser les plus jeunes aller à l'école ou au travail.
Les précisions d'Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Face à l'épidémie qui accélère en Guyane, notamment sur l'île de Cayenne, les autorités ont décidé de renforcer les mesures de restriction de circulation avec un allongement du couvre-feu. Des mesures qui visent à stopper la propagation et éviter une surcharge des hôpitaux, alors que le nombre de consultations et de tests positifs augmente très significativement. Une explosion de cas qui a conduit au report du second tour des municipales. En Corse, les autorités locales ont présenté aujourd'hui toute une batterie de mesures pour sécuriser la saison touristique. Des tests de détection du Covid-19 proposés aux visiteurs sur la base du volontariat, le contrôle de température dans les ports et dans les aéroports et les services de réanimation renforcés. Finalement, l'idée d'un passeport sanitaire conditionnant l'entrée sur l'île n'a pas été retenue. Des brigades mobiles iront au-devant des touristes directement dans les campings, par exemple, ou dans les lieux les plus fréquentés, pour effectuer des campagnes de tests. Et 600 places sont même prévues pour loger les personnes qui devraient être placées en quarantaine. Du paracétamol 100% made in France, c'est l'objectif du gouvernement qui veut relocaliser toute la chaîne de production d'ici 3 ans. Le paracétamol, l'un des médicaments les plus vendus en France, et notamment lors de cette crise du Covid-19. Et c'est une conséquence, justement, une conséquence directe du Covid. Figurez-vous que les fabricants de plastique se frottent les mains. Le plastique, vous allez me dire, c'est terminé, on ne doit plus en utiliser, c'est pas écolo. Et pourtant, vous l'avez peut-être constaté ces derniers mois, sans doute même, le retour des objets à usage unique, les masques, les gants, le cellophane qu'on met un peu partout pour isoler, pour protéger. La crise sanitaire a totalement changé nos habitudes. On peut même parler de retour en arrière. D'après un sondage Opinionway, 2/3 des Français disent privilégier les aliments emballés. Reportage Marion Gauthier.
Alors j'ai des courgettes, j'ai des champignons et des piments.
Le tout emballé dans du plastique que Fouzia jettera une fois arrivée chez elle.
Depuis qu'il y a le coronavirus, il y a plus de choses emballées. Ça me rassure énormément. Je ne peux pas acheter sans emballage pour ne pas attraper le coronavirus parce qu'il y a tout le monde qui y touche et j'ai peur de l'avoir parce que ça se transporte et ça se transmet rapidement.
Masque remonté jusqu'aux yeux, Morgane aussi a renoncé au vrac. Elle s'est habituée à voir son primeur à travers un écran plastique.
Ça m'attriste un petit peu d'utiliser plus de plastique parce que c'est pas bien et voilà, la peur l'emporte. Je vais continuer à utiliser le plastique malheureusement et jusqu'à qu'il y ait une amélioration par rapport à tout ce qui se passe.
Il suffirait pourtant de se laver les mains régulièrement, de rincer ses légumes en rentrant des courses, insiste Pierre Canet, directeur du plaidoyer au WWF France.
Il faut faire attention, on a une brèche qui s'ouvre. Le plastique n'est pas une barrière et malheureusement, quelques industries se sont investies pour laisser penser que ce plastique pouvait être une protection par rapport au virus.
Et quant aux nouveaux pollueurs, déjà visibles sur les plages, les masques, les blouses et les gants en plastique, Pierre Canet demande que leur collecte soit organisée par l'État.
Le reportage de Marion Gauthier dans un supermarché parisien. Ce soir, la Chine assure que l'épidémie à Pékin est sous contrôle. Elle écarte le risque d'une nouvelle propagation malgré une recrudescence de cas qui a conduit, vous le savez, la capitale à prendre de nouvelles mesures drastiques.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h08, c'est la suite de votre journal et un coup de filet au sein de la communauté tchétchène aujourd'hui après les violences de ces derniers jours à Dijon. 6 membres de cette communauté ont été interpellés dans plusieurs villes de France, Alain Acco.
Oui, essentiellement dans l'Est, à Dijon, Dole, Troyes, Saverne, près de Strasbourg ou encore à Saint-Étienne. Les 6 Tchétchènes interpellés par le RAID ou les BRI locales étaient tous déjà connus de la police. L'un d'entre eux est soupçonné d'être à l'origine de l'appel lancé sur Snapchat pour mener cette expédition punitive. Les autres ont été identifiés sur les images vidéo ou grâce aux plaques d'immatriculation de leur voiture. Mais au-delà de leur présence sur les lieux à Dijon, leur rôle exact reste à déterminer. Il y a aussi parmi les gardés à vue un habitant de Dijon, présenté par sa famille comme un médiateur qui aurait cherché à faire retomber la tension dans le quartier des Grésilles. À ce stade, on ne connaît pas le résultat des perquisitions. D'après le procureur de Dijon, ces gardés à vue sont destinés à vérifier les premiers éléments de l'enquête qu'il a ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée, violences aggravées et association de malfaiteurs. Le procureur assure par ailleurs que de très nombreuses constatations, auditions, réquisitions et actes techniques ont déjà été réalisés par les services de police judiciaire et de sécurité publique.
Les précisions d'Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1. Les agressions et les insultes à caractère raciste ont augmenté de 11% l'an dernier. Après 3 ans de baisse, c'est la conclusion du rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est une loi qui a été adoptée le mois dernier et qui est aujourd'hui retoquée par le Conseil Conseil constitutionnel la loi contre les contenus haineux sur Internet. Elle devait entrer en vigueur le 1er juillet, mais les sages ont donc décidé de censurer le cœur même du dispositif, c'est-à-dire les nouvelles obligations pour les plateformes Internet de retirer certains contenus qui portent atteinte à la liberté d'expression. C'était une réponse à la crise des Gilets jaunes, confiée à 500 Français tirés au sort le soin de réfléchir à des propositions sur le climat. Et bien après 9 mois de travaux, cette convention entre maintenant dans sa toute dernière ligne droite. Dernière session demain, avant les propositions, il y en aura 150 et on sait déjà qu'elles vont toucher plusieurs aspects de notre quotidien, Claudia Bertram.
Absolument, et l'une des plus emblématiques, c'est d'inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Ensuite, les propositions sont regroupées selon 5 grandes thématiques. D'abord, se loger avec par exemple rendre obligatoire la rénovation thermique des bâtiments, se nourrir avec des mesures pour favoriser les circuits courts. Troisième thématique, consommer avec l'interdiction de la publicité des produits les plus polluants, une sorte de loi Evin sur le climat. Il y a aussi le volet se déplacer avec une mesure qui risque de faire débat. Abaisser la vitesse sur les autoroutes de 130 à 110 km/h. Dernier volet, produire et travailler avec la réduction du temps de travail sans perte de salaire ou le développement du télétravail. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Je ne vais pas vous présenter les 150 mesures, d'autant qu'elles doivent être votées. Donc certaines ne seront peut-être pas retenues à l'issue du week-end. Mais pour celles qui le seront, eh bien, les Français pourraient être amenés à se prononcer dessus. Les membres de la Convention doivent en effet déterminer s'ils souhaitent voir soumettre certaines de leurs propositions au référendum.
Les précisions de Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Notez que Laurence Toubiana, la coprésidente du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne et directrice générale de la Fondation européenne pour le climat, sera demain l'invitée de la matinale d'Europe 1 à 8h30. C'est le 3 juillet qu'Air France présentera ses orientations stratégiques avec à la clé, on le sait, des suppressions de postes, sans doute entre 8 à 10 000 emplois. Il y aura aussi des fermetures ou des réductions de certaines lignes intérieures. Bercy demande à Air France de ne procéder à aucun départ forcé. À 4 mois et demi de la présidentielle aux États-Unis, un nouveau livre vient écorner l'image du locataire de la Maison Blanche. Livre écrit par l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, l'un de ses plus proches donc, qui visiblement en a gros sur le cœur. John Bolton balance, si l'on en croit les premiers extraits avant la publication, très attendue la semaine prochaine. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Xavier, jamais un responsable d'un rang aussi élevé n'avait attaqué à ce point-là le président américain.
Ah oui, c'est une dénonciation sans ambiguïté. John Bolton a servi aux côtés de Donald Trump pendant un an et demi. Il était le principal conseiller en politique étrangère. Il a donc participé aux réunions les plus stratégiques, aux rencontres avec les plus grands de ce monde. Et voici sa conclusion. Il n'est pas apte à la fonction, il n'a pas les compétences pour exercer ce poste. Voilà ce que dit John Bolton dans une interview à ABC. Dans son livre, il décrit un président ignare qui demande par exemple si la Finlande fait partie de la Russie, un Donald Trump dont toutes les décisions sont guidées par un seul but, se faire réélire. Et John Bolton raconte par exemple cet entretien surréaliste avec le président chinois, Donald Trump, qui demande à Xi Jinping de l'aider pour sa campagne électorale en achetant en masse du soja américain afin de satisfaire les fermiers dans les États agricoles. Selon John Bolton, Donald Trump est aussi facilement manipulable par les flatteries des autocrates, trop content d'avoir affaire à un président américain aussi faible.
Poutine pense qu'il peut le mener par le bout du nez. Poutine est un type intelligent, dur. Il voit qu'il n'a pas un adversaire à la hauteur. Je ne pense pas que Donald Trump l'inquiète beaucoup.
Alors Donald Trump, lui, dénonce de la pure fiction, je cite, inventée par un ex-employé aigri. Mais John Bolton n'est pas n'importe qui. Ce faucon a servi 3 autres présidents, dont les Bush, père et fils. Vous connaissez peut-être d'ailleurs sa fameuse moustache blanche. Jamais quelqu'un d'aussi respecté chez les conservateurs n'avait à ce point accablé Donald Trump.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump, tiens, qui vient de déclarer à l'instant que couper tous les ponts avec la Chine était une option pour les États-Unis dans un contexte de tension extrême entre les deux premières puissances mondiales. Et pour finir, vous l'attendez. Nous aussi, la réouverture des cinémas à partir de lundi prochain, avec bien sûr toutes les mesures barrières adéquates que sont en train de mettre en ce moment les exploitants de mettre en place, comme l'a constaté Jean-Jacques Herry dans un cinéma de la Porte des Lilas à Paris.
David Baudry, le directeur de la programmation, nous attend à l'entrée du cinéma.
Tout le monde rentre par la même porte. On a le gel hydroalcoolique qui est tout de suite à disposition. On a fait un sens de circulation. Il y a des marques de distanciation au sol et on a juste à suivre les flèches.
J'arrive à l'accueil et devant moi, il y a ça.
C'est une plaque de plexiglas que vous trouvez maintenant communément dans les commerces.
En chemin, on croise François de Miremont, le directeur régional des cinémas CGR.
Non, pas de stress, plutôt de l'impatience.
Tout est déjà quasiment prêt pour la réouverture. Les frigos derrière lui en témoignent.
Ils viennent d'être remplis.
C'est vrai ?
Voilà, on a reçu la commande confiserie ce matin et on a tout rempli ce matin. Donc on n'a plus qu'à ouvrir lundi.
Deux escalators plus tard, on touche enfin au Graal, la salle de cinéma. Un cale-porte maintient l'entrée ouverte.
Toutes les portes seront ouvertes pour éviter qu'il y ait des manipulations.
Et en plus, on ferme la porte une fois que tout le monde est là.
Exactement. Là, vous avez 150 places dans cette salle et on pourra mettre que 75 personnes. Ça ajoute une autre contrainte, à savoir qu'il y aura toujours au moins l'espace d'un siège entre des personnes qui ne se connaissent pas. On part pas par là où on est rentré. Les gens qui sortent de la salle ne croisent pas ceux qui rentrent en salle.
David Baudry termine avec deux conseils cinéma pour ce lundi. Le film d'animation coréen Nous les chiens, parfait pour une séance en famille. Ou aller voir De Gaulle avec Lambert Wilson, c'est d'actualité en ce 18 juin.
Effectivement, le reportage de Jean-Jacques Herry pour Europe 1. La météo, on voit ça avec vous Anissa Haddadi, avec un peu plus de soleil demain.
Oui, on en a envie du soleil là. Vous voulez de bonnes nouvelles? Eh bien effectivement, demain, après une matinée sous la grisaille, la moitié sud du pays va pouvoir profiter d'un après-midi bien ensoleillé. Pour toutes les régions qui se situent au sud de la Loire, le soleil va donc faire de belles percées demain, avec tout de même quelques passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Et ça va durer toute la journée. Attention, toujours au bord de la Méditerranée, le vent d'ouest qui souffle encore demain. Sur les reliefs du massif central et des Pyrénées, nous aurons quelques averses dans l'après-midi, mais en altitude seulement. Au nord de la Loire, alors là, c'est un autre scénario. Le ciel est partagé entre soleil et averses. Toujours la même histoire. Dans l'après-midi, en Bretagne, Normandie, région parisienne, Alsace, Lorraine, territoire de Belfort et dans le centre Val-de-Loire, eh bien demain, il pleut entre deux éclaircies. Les températures, elles augmentent un peu demain matin avec 12 à 14 degrés sur la façade atlantique sous le soleil, jusqu'à 17 au bord de la Méditerranée et 9 à 12 sur le reste du pays. Et puis dans l'après-midi, c'est assez stationnaire et frais au nord avec 17 à Boulogne-sur-Mer, 19 à Rennes et Lorient, 20 à Belfort et Clermont-Ferrand, 22 à Strasbourg, Besançon et Paris, 24 à Nice et Grenoble. Et là, c'est très chaud. 27 à Marseille et Perpignan et 29 à Nîmes.
Votre météo sur Europe 1 avec Anissa Haddadi.
Europe 1.
Dans un instant, la bourse, Claire Lemaître de boursier.com et puis l'invité éco, Carole Ferry, reçoit ce soir le directeur général du parc Astérix. A tout de suite. Que s'est-il passé du côté de la bourse aujourd'hui? On voit ça tout de suite avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et la crise sanitaire pèse encore ce soir sur le moral des investisseurs qui craignent une seconde vague épidémique.
Oui, c'est le même scénario qu'hier, la crainte d'une seconde vague qui pèse sur le Dow Jones en repli de 0,15%, 26 080 points. Le Nasdaq résiste en hausse de 0,33%, 9 943 points. À l'écart de coronavirus et les hospitalisations sont en hausse aux États-Unis et notamment en Californie et au Texas, les deux États américains les plus peuplés. La situation en Chine inquiète également parce qu'une deuxième vague pourrait freiner la reprise économique. Alors fort repli ce soir pour les valeurs bancaires, JP Morgan et Goldman Sachs cèdent plus de 1%. Alphabet perd 1,4%. Un logiciel d'espionnage a pris pour cible le navigateur Internet Chrome développé par Google, selon les informations de l'agence Reuters. Un mot du pétrole, le baril de brut léger américain reprend 2,1%, 38,77 $ sur le NYMEX. L'OPEP aurait décidé d'accélérer dans les prochains mois les coupes de production de pétrole qui n'ont pas été respectées au mois de mai.
Et à Paris, Claire, le CAC 40 a marqué une pause ce soir.
Oui, avec un repli de 0,75%, 4 958 points. À Paris, les entreprises constatent toujours les lourdes conséquences du confinement. On l'a vu aujourd'hui avec le groupe Fnac Darty qui estime avoir perdu environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Fnac Darty constate tout de même une reprise significative depuis la mi-mai. Le titre gagne 1,6%. Et puis la Française des Jeux a confirmé de son côté un impact total du confinement proche de 200 millions d'euros sur le chiffre d'affaires. FDJ perd 1,4%.
En revanche, ST Microelectronics termine en tête du CAC 40.
Avec un gain de 1,5%, le groupe franco-italien bénéficie d'une actualité porteuse. Un plan de relance massif de 37 milliards de dollars pour l'industrie des semi-conducteurs serait en préparation aux États-Unis. Et puis encore une séance négative pour Airbus en repli de 2,4%. La compagnie espagnole Iberia a conclu un accord avec le constructeur aéronautique pour reporter la livraison de certains A350 et A320neo selon la presse espagnole. Ailleurs, en Europe, les marchés ont clôturé en baisse. Londres perd 0,5%, Francfort moins 0,8%, Madrid moins 1,2%, Milan moins 0,5%, Bruxelles perd 0,8%, moins 0,7% pour le CAC 40 à Paris. Il termine à 4 958 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître. On vous dit à demain. Et il est temps de retrouver l'invité Écho. Carole Ferry, vous recevez ce soir le directeur général du Parc Astérix.
Nicolas Crémer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général du Parc Astérix qui a rouvert ses portes ce lundi. Alors, première question, comment ça se passe? Est-ce que vous avez du monde qui vient?
Alors, on a un petit peu de monde, on n'en a pas trop, et c'est ce qu'on voulait pour redémarrer, pour être sûr que tout ce qu'on a imaginé pour pouvoir proposer le parc aux visiteurs tout en leur garantissant la sécurité sanitaire fonctionne. Voilà, donc oui, on a un peu de monde. On a le monde normal qu'on a à cette période de l'année, sachant qu'on n'a pas les scolaires et les centres aérés.
Même si tout le monde n'a pas école en ce moment, donc vous pourriez avoir des scolaires.
C'est vrai, mais je soupçonne quand on se promène dans les allées du parc qu'on en ait quelques-uns quand même.
Alors quel est le protocole sanitaire justement que vous avez mis en place?
Alors on a refait tout le parcours visiteur et tout le parcours des salariés pour s'assurer que à tous les endroits où ils allaient passer, eh bien, on puisse garantir leur sécurité. Donc ça commence dès l'entrée du parc, sur le stationnement avec des espaces augmentés entre les véhicules. Ensuite, ça continue au niveau des back-checks, des contrôles de sac, hein, où on a déjà préparé les files d'attente de façon à ce que les gens puissent faire ce contrôle d'accès sans être rassemblés. On propose à nos gens, à tous nos visiteurs, de se laver régulièrement les mains et de les nettoyer au gel hydroalcoolique. On a mis en place plus de 900 bornes de gel hydroalcoolique pour être sûr que tous les visiteurs et tous les salariés puissent se nettoyer les mains dès que c'est nécessaire. On a demandé à nos visiteurs de venir systématiquement avec des masques. On les recommande le port des masques dans les allées et il y a certains endroits du parc où le port du masque est carrément obligatoire, notamment dans les attractions, quand les gens sont debout dans les restaurants et dans les boutiques, par exemple.
Donc le port du masque n'est pas obligatoire tout le temps?
Non, le port de masque n'est pas obligatoire tout le temps. On en a beaucoup parlé entre nous. On trouvait que c'était quand même très contraignant de devoir porter le masque toute la journée, sachant que quand les gens se promènent dans les allées, il n'y a pas plus de problèmes dans les allées du parc que dans les rues d'une ville, par exemple.
C'est à partir de quel âge le port du masque recommandé?
C'est moins de 11 ans que le port du masque n'est plus obligatoire ni recommandé.
Comment ça se passe pour les files d'attente? Alors, si vous n'avez pas énormément de monde, peut-être qu'il n'y a pas trop de files d'attente en ce moment. Mais si jamais vous aviez plus de monde, vous avez prévu quoi?
Alors, on espère qu'on aura plus de monde, notamment à partir du week-end prochain. Ce qu'on a prévu par rapport à ça, c'est on a marqué au sol des espacements de façon à ce que tous les groupes, parce qu'en fait, on va demander aux gens de faire les files d'attente par groupe, famille ou gens qui sont venus dans un même véhicule, de faire la file d'attente ensemble. Et puis, quand les gens vont arriver dans des espaces couverts et dans des espaces en serpentin où les mesures de distanciation ne sont plus possibles, on va leur demander de porter le masque de façon obligatoire. On va leur demander de nettoyer leurs mains avec du gel hydroalcoolique avant de monter dans l'attraction, de mettre leur masque pendant l'attraction. Et quand ils sortent, évidemment, ils pourront retirer leur masque une fois qu'ils sont revenus dans les allées du parc.
Alors, vous avez déjà quelques jours d'ouverture. C'est quoi votre retour d'expérience? Vous trouvez que ça fonctionne plutôt bien, que les gens arrivent à en profiter, ou que quand même ces mesures de distanciation, ça bloque quelque chose?
Alors, c'est vrai que le parc aujourd'hui, il faut le dire, n'est pas tout à fait comme il est habituellement, hein. C'est une nouvelle expérience pour nos visiteurs. Donc on était effectivement très, très impatients de voir comment les visiteurs allaient réagir, comment ils allaient passer leur journée sur le parc et s'ils allaient bien suivre toutes les consignes qu'on leur demandait de suivre. Écoutez, on est très rassurés aujourd'hui parce que finalement, quand on se promène dans les allées, on sent beaucoup de convivialité et on sent que les gens sont bien sur notre parc et on n'a quasiment aucun problème par rapport au respect des normes de sécurité que l'on demande de suivre.
Peut-être justement parce qu'il n'y a pas trop de monde. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour visiter le parc? Parce que souvent, le problème, c'est ces files d'attente interminables. Là, c'est peut-être le moment d'en profiter réellement.
Alors c'est sûr que pour ceux qui viennent aujourd'hui sur le parc, je dirais effectivement c'est un bon plan parce qu'on a tendance à considérer que les gens doivent faire une douzaine d'attractions ou de spectacles par jour pour passer une bonne journée. Et honnêtement, en ce moment, ils en font plutôt de l'ordre de 18 par jour. Donc effectivement, c'est un bon plan que de venir sur le parc en ce moment.
Est-ce que vous avez une estimation des pertes liées à la crise du coronavirus pour le parc?
Alors il est encore trop tôt pour faire le bilan complet. On pourra le faire à la fin de la saison parce qu'on pense que ça aura quand même un impact sur l'activité de juillet-août, même si on espère retrouver un niveau de fréquentation traditionnel, classique, le plus rapidement possible. Ce qu'on sait dire, c'est à date, les pertes, effectivement, elles sont importantes puisqu'il nous manque 2 mois et demi d'ouverture complète. On est quasiment de l'ordre de 40 à 50 millions d'euros de pertes, de chiffre d'affaires de pertes aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est une année blanche pour le parc Astérix, comme pour beaucoup d'autres parcs d'ailleurs.
Et au niveau des réservations pour cet été, justement, vous commencez à avoir des réservations dans les hôtels et pour le parc?
Alors, c'est effectivement la chose qui a été le plus compliquée pour nous dans le redémarrage parce qu'au niveau opérationnel, quand on avait tout arrêté, au moment du confinement, on avait souhaité se mettre en ordre de marche pour démarrer opérationnellement le parc très rapidement. Le seul problème, c'était les ventes. Et on avait fermé les ventes parce qu'on n'avait pas de visibilité. On les a rouvertes dès qu'on a su qu'on allait rouvrir mi-juin. Le démarrage a été assez calme parce qu'il a fallu expliquer à nos visiteurs que le parc était ouvert et qu'ils pouvaient venir. Et donc, ça remonte. Et ces derniers jours, là, je discutais encore avec la responsable du centre d'appel ce midi. Maintenant, le niveau de réservation est largement repassé au-dessus de l'année dernière. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous.
Eh bien, je vous remercie. On va terminer avec ces bonnes nouvelles. Et je vous souhaite une excellente soirée, Nicolas Crémer.
Merci beaucoup, vous aussi.
Merci à vous, Carole Ferry. On vous dit à demain. Et tout de suite, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Voici donc ce que vous découvrirez demain dans vos journaux. Redistribution des bénéfices, bientôt une loi pour mieux partager. C'est ce que titre Le Parisien aujourd'hui en France. Une proposition de loi La République En Marche va être déposée pour rendre obligatoire la participation aux bénéfices pour les salariés des petites entreprises. Emmanuel Macron avec une pelle à la main en train de planter un arbre à la une de Libération. C'est une photo qui remonte à 2018, c'était aux États-Unis, mais elle illustre l'une des préoccupations du moment avec ce titre, Environnement, l'appel du 19 juin. La Convention citoyenne pour le climat, composée de Français tirés au sort, s'apprête à remettre au président ses 150 propositions. On vous en parlait tout à l'heure dans le journal, une procédure inédite et des idées ambitieuses. La Convention climat prône une écologie radicale pour le Figaro. Travailler moins, produire moins, consommer moins. Les 150 citoyens réunis par l'exécutif pour lutter contre le réchauffement défendent une approche maximaliste. Convention citoyenne, les propositions choc pour le climat, à la une également du journal La Croix. C'est donc dimanche que cette commission doit remettre ses propositions. La Croix décrypte les plus emblématiques d'entre elles, 150 propositions qui pourraient bousculer notre quotidien et déclencher un référendum. 150 mesures choc également. C'est le titre des Échos. Beaucoup de vos journaux reviennent sur ces propositions. Remaniement, Macron veut reprendre les rênes, titre le journal L'Opinion. Gardera-t-il ou non Édouard Philippe à Matignon? Le chef de l'État n'a pas encore tranché la question apparemment. Dans sa réflexion, un élément comptera, nous dit le journal, sa volonté de retrouver du pouvoir. Le chef de l'État estime que la technostructure autour de lui l'empêche d'agir à sa guise au sein de la Macronie. Certains estiment qu'Édouard Philippe est un défenseur de celle-ci alors que le locataire de l'Élysée a promis un remaniement au lendemain du second tour des élections municipales et avant le 14 juillet. Et puis les ophtalmos à la rescousse, c'est le titre de West France demain matin. La France ne forme pas assez d'ophtalmologues pour répondre à ses besoins de soins oculaires qui explosent. Et pour 2 ophtalmologues qui partent à la retraite, un seul entre en fonction. De plus en plus de praticiens grecs, roumains ou d'autres nationalités sont donc appelés en renfort et exercent désormais dans notre pays. Voici donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30 sur Europe 1, il est temps de retrouver Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission, toujours le 39-21 évidemment pour vous joindre.
Exactement, et je vous retrouve tout à l'heure pour le flash à 23h30.
Avec plaisir.